Lundi matin, le 14 juin 2021, j'étais pas sûr que nous étions bel et bien le 14 juin. Ben oui, on est là, tabarouette. Bienvenue à En Zone Neutre. Mon nom est Simon Lavergne. Comme vous savez, j'ai ce petit podcast matinal que j'aime bien. On parle de sport, on s'amuse. Je m'amuse, en fait. Je sais pas si vous autres, vous vous amusez, mais ça, tu sais, l'important, c'est que moi, je m'amuse, hein, parce que faire ça à tous les jours, si je m'amusais pas, ça irait pas bien. Présenté par l'Auberge et Club de Golf Héritage à Notre-Dame-de-la-Paix. Réservez vos temps de départ 819-522-6622. Superbe track de golf. D'ailleurs, en fin de semaine, je n'ai pas joué à l'Auberge et Club de Golf Héritage. J'aurais dû parce que j'ai joué une affreuse ronde de golf samedi avec des amis. On est allé au lac Carling, près de... Ben, c'était à Brownsburg-Chatham, près de La Chute. Et c'était la première fois que je jouais là. Et le terrain, bien que le terrain soit super, là, superbe track de golf aussi, c'est probablement la dernière fois que je vais jouer là, juste parce que ça n'a pas bien été au niveau du score. J'ai vraiment mal joué. Moi, je suis un golfeur correct. Là, je suis en bas de 10 d'handicap, là, qui est quand même très bon. Et samedi, j'ai joué 96. Donc, voilà. Moi, je bois jamais en jouant au golf habituellement parce que je me concentre sur la tâche à faire et je vais boire dans les tournois corporatifs, là, les tournois de 4 balles, meilleure balle, tout ça. Ben là, après le premier 9, je me suis aligné des Smirnoff. Il était temps qu'on passe à autre chose, mais merci à mes partners de golf qui ont été, malgré tout, je me suis amusé pareil. Puis c'est rare qu'en jouant 96, je m'amuse habituellement et là, je me suis amusé comme un petit fou quand même. C'était bien, bien agréable. Belle journée, faisait super beau. Beau coin, en plus, c'est pas très loin de l'Outaouais, fait que tu sais, c'est pas trop de route à faire. Je pense que tout le monde a bien apprécié ce terrain-là. Mais tu sais, ça la cote pas mon beau golf héritage à moi que j'aime tant. Donc voilà, réservez vos temps de départ 819-522-6622. D'ailleurs, dimanche, j'ai eu l'occasion d'enregistrer une entrevue que vous allez pouvoir voir et entendre cette semaine dans l'édition live du podcast. J'ai rencontré la légende vivante de la boxe, Gaétan Hart, et sa fille Mélanie, qui a écrit sa biographie. Donc, la discussion entre nous tourne plutôt autour de, c'est certain, de M. Hart, mais aussi là, de Mélanie et de, le processus d'écriture de la biographie. Mais en gros, c'est une grosse jasette que je me suis payé avec une légende. Donc, et moi je suis pas... C'est pas moi le plus connaissant de la boxe... dans l'histoire. Là. Moi, je suis un amateur de boxe qui aime, par exemple, louer des galas de boxe, les regarder, mais je suis pas le plus connaisseur de la technique, puis comment que ça va être point. Tu sais, comment les points vont être attribués, etc., etc. Donc, c'est pas ça qui est ma tasse de thé, mais j'adore la boxe, j'adore ça, j'aime ça au bout. Puis, ça fait longtemps que je pensais à inviter justement M. Hart pour parler de sa carrière parce que ça, M. Hart, aujourd'hui, les gens le connaissent encore, puis c'est ce qu'il me disait dans l'entrevue, que ça le surprend toujours de voir à quel point les gens le reconnaissent encore, puis le saluent, puis l'appellent encore champion, puis tout ça. Puis ça le surprend aujourd'hui, tout ça. Mais c'est une légende vivante de la boxe. Puis s'il avait vécu à notre époque, là, tu sais, s'il avait... il vit à notre époque, mais ce que je veux dire, s'il avait boxé à notre époque présentement, ce serait un multimillionnaire et il serait sur toutes les galas télévisés parce que c'était un style, justement. Tu sais, c'est pas pour rien son surnom là, qui a été donné dans la biographie, puis je pense que ça vient bien avant ça. Le Rocky de la boxe québécoise, ben, c'était carrément ça, M. Hart. Il commençait ses combats toujours un peu lent, tout ça, puis un moment donné, quand l'autre s'essoufflait, là, lui, il était encore top shape, puis là, il frappait, puis c'était un gars qui frappe qui frappe fort, qui frappe dur, tout ça. Donc, bien hâte de vous présenter ça cette semaine. Pour les connaisseurs de boxe, là, vous n'allez rien apprendre dans cette entrevue-là. C'est vraiment une entrevue sur M. Hart aujourd'hui et le processus de la biographie et tout avec sa fille. Sa fille qui est charmante comme tout, super gentille. On est de la même génération, là, on a sensiblement le même âge. Fait qu'on avait les mêmes références quand on discutait ensemble. Fait que c'était bien plaisant de les rencontrer. Puis c'était une super expérience. Puis merci à l'Auberge et Club de Golf Héritage. Vous allez voir, on a enregistré ça directement dans l'auberge. Et on a pris des photos après et tout. Fait que c'était bien le fun. Fait que j'ai bien hâte de vous présenter ça cette semaine au podcast. La seule affaire, c'est que le son n'est pas génial parce que c'était la première fois que j'enregistrais avec des invités sur place, tout ça. Et j'essayais d'avoir le micro, si on veut, entre les invités pour que le son soit, tu sais, le son de la salle soit partagé et tout. Et finalement, on entend beaucoup, beaucoup la climatisation puis le bruit ambiant, là, puis tout ça. Donc, la prochaine fois, je vais mic'er les deux personnes, ça va être moins de trouble. Et puis, on va y aller avec le son direct du micro. Mais bref, c'est pas le son qui est important tant que ça dans cet entretien-là, c'est surtout le propos puis la belle discussion que j'ai pu avoir avec eux. Donc voilà, à suivre cette semaine. Soyez là pour l'épisode live. Parlant de cette semaine, ben là, ce soir, tonight is the night, hein, les Canadiens, sans faire de jeu de mots avec les Golden Knights, là, tonight is the night, les Canadiens qui vont affronter les Golden Knights de Vegas pour le premier match de la série en troisième ronde. Et ça se passe à Vegas. Donc le match est à 21h ce soir. Donc, on va se coucher tard, pas le choix. Il faut suivre ça, ce match-là. Est-ce que le Canadien a une réelle chance de l'emporter? On en a parlé avec des amis en fin de semaine et je pense que toutes les discussions sont autour de la croyance. Donc, on espère donc que le Canadien peut rivaliser avec les Golden Knights de Vegas. Mais sur papier et sur ce qui s'est passé dans la saison, Vegas, 82 points au classement général, bien, classement dans leur division, en fait, 82 points en 56 matchs. Donc, on n'a pas perdu souvent. Sont allés, je pense qu'ils ont eu chaud peut-être en première ronde, là, les Golden Knights, parce que c'était allé en 7 matchs contre le Wild du Minnesota. Mais par la suite, rouleau compresseur à partir du deuxième match contre l'Avalanche du Colorado. Et les Golden Knights ont pris leur air d'aller, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour le Canadien, même si la plupart des gens disent « Ben oui, on disait toujours avant chaque série ou même pendant les séries que le Canadien n'allait pas être de taille. » Puis finalement, ben, ils l'ont emporté en 4 matchs, en 7 contre les Maple Leafs et en 4 contre les Jets, ce qui fait qu'ils ont remporté 7 matchs de suite. Donc, ils sont capables de gagner. Là. Puis ça, on ne met pas ça en cause, mais plus tu avances dans les séries, plus tu affrontes des équipes qui sont à leur apogée. Là. Je veux dire, eux autres aussi, ils ont passé 2 séries pour se rendre où est-ce qu'ils sont. Eux autres aussi ont joué du bon hockey, tout ça. Donc, on arrive là, on sépare ils disent les femmes, les hommes des enfants, ou je ne sais plus trop comment ils disent ça, là, l'expression, mais bref, ça va être du bon hockey. J'ai bien hâte de suivre ça. Je ne fais pas d'analyse de cette série-là parce qu'il y a trop d'impondérables. Il y a le fait qu'on pense toujours que Montréal va se faire battre, puis finalement, ils jouent du hockey super inspiré, et bien que toutes les séries que j'ai regardées à date avaient tous l'air plus rapide, plus structuré que les matchs, par exemple, dans les séries du Canadien, ben je me fais toujours surprendre à voir que le Canadien s'adapte ou plutôt l'autre équipe semble prendre le tempo du Canadien depuis, tu sais, dans ces 7 matchs-là qui ont été remportés. Donc, l'analyse, elle ne tient plus. Là, je veux dire, la logique, c'est que Golden Knights gagne 104. Là, ça, c'est la logique. Là. Ça, c'est par exemple sur papier. Mais ça ne se joue pas comme ça. Ça ne se joue pas comme ça, le hockey. Puis le sport en tournoi. Là, on est dans les séries éliminatoires, mais quiconque a déjà joué des tournois de hockey où est-ce que, par exemple, il était l'équipe négligée là, versus une autre équipe, ça motive, ça te rentre dans les tripes, tu veux pas te faire déclasser, puis ce que tu sais, c'est que tu es rendu à début de troisième période, c'est 1-1, puis tu as encore une chance de gagner le match. Fait que c'est souvent comme ça que ça se passe plutôt que ce qui est démontré sur papier ou ce qui a été joué dans la saison régulière. Donc, on parle complètement d'une autre saison, complètement d'autre chose. Et c'est sûr que ma prédiction serait les Golden Knights en 5, probablement. Mais je vais me tromper. Je suis presque sûr que je vais me tromper. Fait que Je vais dire les Golden Knights en 5, puis je vais me faire une deuxième prédiction. Je vais dire Montréal en 7, tiens, pour ce qui est complètement hors de la raison, mettons. Je vais prendre Canadien en 7. Et jeudi, je recevais justement mon ami Renaud Bourbonnais et Simon, mes amis Renaud Bourbonnais et Simon Bédard de Hockey le Magazine. Et Renaud est allé d'explication que lui, c'était le Canadien. Il voyait le Canadien en finale de la Coupe Stanley. Puis, ben, si les fans, les vrais fans, ils croient pas, ben qui va y croire, tu sais? Fait que moi, je me considère pas comme étant un vrai fan parce que je suis un fan des Sénateurs aussi. J'aime ces deux équipes-là, mais à la base, je suis un fan des Sénateurs. Mais j'ai embarqué dans le bandwagon, là. J'ai vraiment embarqué, puis c'est le fun à suivre. Puis pour moi, pour le podcast, tout ça, ben, c'est le fun de pouvoir en parler à tous les matins aussi. Fait que on souhaite une victoire du Canadien à soir, tu sais, juste pour partir comme ça, là. Partir avec une victoire, donner un peu d'espoir. Puis après ça, ben, les Knights, si ma première prédiction est vraie, ils vont remporter les 4 prochains, mais bon. Bref. Hey, les Blue Jays, hier après-midi, étaient complètement en feu. L'ont emporté 18 à 4, puis pas contre des pieds de céleri, là, contre les Red Sox de Boston, qui sont en deuxième position dans la division. Une équipe qui avait 5 matchs d'avance sur les Blue Jays, justement, dans la division l'Est de l'Américaine. Derrière les Rays de Tampa Bay, qui sont complètement partis. Ils ont volé le start, comme on dit, malgré qu'ils n'ont pas eu le... c'est pas eux autres qui ont eu le meilleur... début de saison, mais bref, ils ont l'air d'être partis pour la gloire. Ben, tabarouette, les Blue Jays l'emportent 18 à 4. 18 à 4, frappe 8 circuits dans le match. Et j'ai vérifié, le record, c'est 10. 10 par une même équipe dans un match. Et ce record-là appartient aux Blue Jays. Donc, pas les mêmes Blue Jays. Les Blue Jays, aujourd'hui, ils ne frapperaient plus autant de longues balles. Là. Les Blue Jays de 1987, en fait. Donc, c'est 10, hey, c'est du circuit en tabarouette. Là. 10 circuits dans une game. Là, il y en a eu 8 hier. Et les Blue Jays l'emportent 18 à 4. 3 ou 2? Est-ce que je me souviens plus, mais 2 circuits de Teoscar Hernandez, 2 circuits de 3 points. Donc, à shot de 3-4 points, là, ça monte vite. Donc, ça a été plutôt facile, la victoire des Blue Jays hier. Belle performance du lanceur quand même. Robbie Ray qui lançait. C'est dur de dire que le lanceur a été bon quand ton attaque te donne 4 points en première manche, puis qu'après ça, tu ne regardes plus jamais derrière. C'est sûr que ça aide ou ça favorise une bonne performance de ton lanceur. Par contre, il les a lancés, ces bonnes manches puis ces bons lancers-là. Donc, chapeau Robbie Ray qui va chercher la victoire. Et chapeau aux Jays là, qui se rattrapent ou qui sont de plus en plus comment je pourrais dire, l'attaque s'est réveillée, autrement dit. Il marque beaucoup de points, puis c'est de bonne augure, là, je veux dire. Ça ressemble beaucoup, puis ça, c'est Passion MLB qui en parlait, là, justement, sur une de leurs leur publications. Ça commence à ressembler beaucoup à la saison 2015 des Blue Jays, la saison où est-ce que, on s'en souvient, là, ils ont fait les séries, c'est la saison du bat flip. En tout cas, les Blue Jays avaient fait les séries, avaient remporté la première ronde, si on veut. Et donc, ça commence à ressembler beaucoup à cette saison-là. Un début de saison très bien. Après ça, les frappeurs ont commencé à se réveiller. On se souvient, ça c'était l'époque de José Bautista, Edwin Encarnacion. Une belle formation, Justin Smoke. Donc, il y avait beaucoup de bons cogneurs, de bons frappeurs, puis des frappeurs de circuit, là, beaucoup. Donc, ça ressemble beaucoup à cette saison-là et Passion MLB qui ont écrit un article là-dessus, puis vous irez lire ça, puis c'est assez véridique, là. Je suis pas mal d'accord avec ça, que ça ressemble beaucoup à cette saison-là. Au tennis, depuis 2 semaines, c'était Roland-Garros. Ça s'est terminé en fin de semaine. Du côté des femmes, samedi, une totale inconnue pour moi qui l'a emporté. D'ailleurs, j'ai pas noté son nom. Krejčinović, quelque chose comme ça. Krejčinović, en tout cas. Je veux pas me massacrer son nom, mais je suis incapable de le dire. Du côté des hommes, c'est le Serbe Novak Djokovic qui l'emporte. Avait battu Rafael Nadal Nadal en demi-finale. Nadal qui est le roi incontesté de la terre battue et Djokovic qui l'a battu là, justement en demi-finale, se présentant en finale contre le futur complètement du tennis, Stefanos Tsitsipas, le grec. Et Djokovic qui l'emporte pour son 19e titre du Grand Chelem, ce qui est assez incroyable, on va se le dire, là, parce que, bon, présentement, si on regarde là, les meneurs au niveau des victoires des Grands Chelems, on a Federer et Nadal qui sont à 20 chacun et on a Djokovic qui est à 19. Et le pauvre Pete Sampras, hein, qui est à 14 et qui ne risque probablement pas d'en gagner d'autres là, parce qu'il ne joue plus. Pete Sampras qui était le plus grand champion avant qu'on connaisse l'ère Federer, Nadal, Djokovic. Et qui est quasiment tombé dans l'oubli, si on veut, grâce à cause de ces belles performances-là. Mais on s'entend, là, ces trois gars-là, Federer, Nadal et Djokovic, jouent dans la même ère. Okay? Ils sont dans la même ère de tennis. Okay? Ils ont remporté 59 titres du Grand Chelem. 59! Il y en a 4 tournois par année, là. OK? Donc, c'est dire que... Puis, tu sais, les autres tournois qui ont été remportés, là, on s'entend, en Australie et aux États-Unis, il y a eu d'autres gagnants. Mais Roland-Garros et Wimbledon, là, on s'entend, là, c'est Djokovic, Federer et Nadal qui ont gagné la quasi-totalité de ces grands chelems-là au cours des dernières années. Là. Puis, quand je dis les dernières années, ben ça fait 15 ans qu'ils dominent, peut-être un peu plus même. Tu vois, Federer a commencé en 90, Nadal un petit peu après, puis Djokovic un petit peu après. Donc, ça fait 20 ans, là. Ça fait 20 ans qu'ils dominent ces gars-là. 59 titres du Grand Chelem. Et je vous fais une petite prédiction. Je pense que Roger Federer va remporter Wimbledon cette année parce que je pense que c'est ça qu'il veut gagner. C'est ça qu'il veut remporter. Je pense qu'il va peut-être prendre sa retraite par la suite parce que, bon, ça n'a pas été facile. Ça fait un an qu'il ne joue pratiquement pas. Il a été opéré au genou, tout ça. C'est pas facile j'imagine, pour le body hein, de suivre à cet âge-là. Le Federer qui approche la quarantaine, là, on va se le dire. D'après moi, là, il va tout donner à Wimbledon. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il remporte ce tournoi-là. Et peut-être qu'on le reverra par la suite, mais je fais une prédiction un peu folle. Je pense que Roger Federer va remporter Wimbledon et va tomber à 21 Grand Chelem, qui va être le roi incontesté. Mais malgré le fait que Nadal en a remporté 20 et que Djokovic est à 19 présentement, je pense qu'il n'y a pas vraiment... Même si Nadal et Djokovic ont gagné des tournois majeurs, tout ça, je pense que c'est un peu grâce à Roger Federer. Puis je m'explique, c'est que Federer était tellement dominant à un certain moment donné que les joueurs ont commencé à vouloir battre Federer. Federer continuait à gagner. Là. Personne ne le battait. Il gagnait. Il gagnait des grands chelems, puis let's go. Il ne perdait pas. Il gagnait d'autres tournois. Là. Il est rendu à 111 tournois de gagner dans sa carrière. Donc, à un certain moment donné, tout le monde a essayé de stepper up pour battre Federer, ce qui a amené Nadal et Djokovic. Nadal, autrement dit, ça l'a amené à gagner autre chose que Roland-Garros. Donc, ça l'a amené à remporter Wimbledon, à remporter des tournois sur le dur aussi. Donc, c'est mon humble analyse. Là. Je ne vous dis pas que je suis le plus connaissant non plus. Là. Je suis pas Hélène Pelletier. Mais c'est ça. Je pense que c'est ça mon analyse. Ça l'a mené à voir ces gars-là stepper up puis remporter des tournois du Grand Chelem aussi. Donc, Djokovic et Nadal. Mais pour moi, le plus grand, c'est Federer quand même. Donc, voilà. Même si quelqu'un bat le nombre de Grand Chelem là, un jour, là. Puis ça, on s'entend, là, 20... quand Nadal, Djokovic et Federer vont être à la retraite, là, on verra plus ça. Là. Il n'y en aura plus des 20. D'après moi, on a vécu l'époque de tennis la plus belle époque de tennis là, de tous les temps. Là. On l'a vécu dans les dernières années là, du côté des hommes, en tout cas, puis même du côté des femmes. Là. Les Sœurs Williams, Justine Henin, Martine Hingis, tout ça, là. Steffi Graf, là, c'est toute notre époque. Ça. On vit ça présentement. Puis oui, il y a eu des grandes joueuses, là, puis il y a eu des grands joueurs, là, Rod Laver, il y a eu les Connors, les Agassi, les Sampras, toute cette gang-là, puis tout ça. Mais force est d'admettre là, que quand tu vois un trio qui gagne 59 tournois du Grand Chelem, c'est dur de dire qu'on n'est pas dans la meilleure époque de tennis ever. Là, donc, voilà. Au golf cette semaine, ça commence jeudi, tabarouette. Là, j'espère que vous êtes hype parce que c'est le 121e US Open qui commence jeudi. Ça se passe à Torrey Pines, un terrain incroyable pour vrai. Ça va être du bonbon. J'ai hâte de voir ça. Qui va l'emporter? Hey, c'est tellement difficile au golf en ce moment. En fin de semaine, c'est un kid de 22 ans c'était son deuxième tournoi sur le circuit de la PGA qui l'a emporté. Son nom m'échappe, là, je ne l'ai pas noté, mais fait, n'importe qui peut gagner. C'est sûr qu'on souhaiterait voir les Kingpins. Là, Phil Mickelson qui a remporté le tournoi il y a deux, trois semaines. On aimerait voir des Kingpins comme Phil, comme Rory McIlroy peut-être, les Justin Thomas, les Jordan Spieth, les Bubba Watson, voyons, John Rahm, Dustin Johnson, on aimerait voir ces gars-là l'emporter. Mais là, il y a comme une petite vague là, après la victoire de Phil, là, où est-ce que on. C'est dur à dire qui va remporter les tournois. Là. Donc, j'ai hâte de voir, de suivre ça en fin de semaine. Ça va être un excellent tournoi. Donc, je vous suggère. Et aussi, là, pour les amateurs de soccer, là, on a l'Euro là, qui se déroule en ce moment. Je vais vous dire les résultats, ce ne sera pas long, donnez-moi deux secondes, je vais vous dire les résultats de ce qui s'est passé en fin de semaine. C'était les premiers matchs, là. Journée 1. OK, donc le 15 juin, c'est demain. On a eu... Où est-ce que ça commence? C'était le match de l'Italie, le premier match. Donc, le groupe A, l'Italie qui l'emporte 3-0 contre la Turquie. L'Italie, grosse victoire. Ensuite de ça, match nul entre le Pays de Galles et la Suisse. Donc, le Pays de Galles, c'est l'équipe de Bale. C'est quoi son prénom? Je me souviens plus de son prénom. Mais c'est un des meilleurs joueurs au monde. Donc ça se termine 1-1. La Finlande l'emporte 1-0 contre le Danemark. La Belgique qui sont probablement dans le groupe des 3-4 favoris pour remporter l'Euro, l'emporte 3-0 contre la Russie. Ensuite de ça, l'Autriche qui l'emporte 3-1 contre, puis ça j'ai regardé un bout de ce match-là là, puis je me demandais en tabarouette comment c'est quoi ce pays-là. C'est la Macédoine du Nord. Je ne sais même pas c'est où la Macédoine du Nord. J'en ai zéro idée. Donc, cette équipe-là s'est qualifiée pour l'Euro, ce pays-là, et se font battre par l'Autriche. Et dans ce match-là, la Macédoine du Nord portait les couleurs blanches et rouges. Moi, j'étais sûr que c'était l'Autriche. Ben non, l'Autriche portait un chandail noir avec des shorts aqua, comme turquoise. Je ne sais pas, le drapeau de l'Autriche est rouge et blanc. Je ne sais pas d'où ça vient, le turquoise puis le noir là-dedans. Il y a sûrement un fait historique. Là, je veux dire, le Canada a déjà joué un match de hockey aux Olympiques ou au championnat junior avec un chandail jaune qui venait de l'armée de l'air. Là, je ne sais pas trop les pilotes. En tout cas, ça venait des jets. Là. Je ne sais pas exactement d'où ça venait. Mais ben, donc ça se peut là, de porter des couleurs qui n'ont pas rapport pantoute avec le drapeau ou avec les couleurs qu'on connaît du pays. Tu sais, ça peut être historique, tout ça. Mais le aqua et le noir, j'avais aucune idée. Je pensais que c'était j'avais inversé. Là. Je pensais que l'Autriche était en blanc et rouge, mais c'était pas ça. Les Pays-Bas, hein, la Hollande, les Pays-Bas l'emportent 3-2 contre l'Ukraine. 3-2, match offensif, on va se le dire. 5 buts au soccer. Et l'Angleterre qui l'a emporté 1-0. L'Angleterre qui l'a emporté 1-0 contre la Croatie. Donc, puis ça se passait à Wembley Stadium à Londres. Ça, c'est tout un stade, mes amis, je vous le dis. Tout un stade. Et là, il n'y a pas de match aujourd'hui. Attends un petit peu. Oui, il y a un match aujourd'hui. La République tchèque contre l'Écosse, ça se passe à 9h ce matin. Ensuite de ça, il va y avoir la Pologne contre la Slovaquie à midi. Et à 15h, entrée en scène de l'Espagne. Les Espagnols contre la Suède à 15h. Et moi, ben, c'est demain que ça se passe pour mon groupe favori. Puis c'est le groupe... Il y a toujours un groupe de la mort, là, tu sais, en Euro ou en Coupe du monde, là, en Championnat du monde, mondial, tout ça. Il y a tout un groupe de la mort. Puis là, je pense que c'est le groupe F, là. La Hongrie contre le Portugal, demain midi. Portugal qui sont champions en titre de... la Coupe du Monde. Et ensuite de ça, la France contre l'Allemagne à 15h mardi. Donc ça, moi je suis allé les Bleus all the way. Ma descendance étant française et tout. Belle équipe. C'est les champions défendants de l'Euro, justement, la France. Donc, à suivre, la France qui a été champion du monde. Là, je me souviens plus. Je pense que j'ai fait une erreur. Est-ce qu'ils sont champions défendants de l'Euro ou champions de la Coupe du Monde? Non, les champions du monde, c'est le Portugal ou c'est les champions de l'Euro? En tout cas, je ne sais pas. Mais ils sont dans le même groupe de toute façon. Fait que ça va être du bon foot qui va se jouer là. Et l'Allemagne, qui n'est pas une petite équipe non plus, là, les Allemands sont très forts. Donc, je ne connais pas la Hongrie, là, pour être bien honnête. Là, je ne suis pas assez connaisseur de foot. Là. Je ne connais pas la Hongrie, qu'est-ce que ça a l'air. Mais Portugal, France et Allemagne dans le même groupe. Ça va être du solide. Je vais essayer de regarder pas mal tous ces matchs-là. Donc, mardi, demain à 15h, on va regarder ça. La France contre l'Allemagne. Yes. That's it pour l'Euro. On va en reparler un petit peu plus tard cette semaine. Hier, je ne l'ai pas effleuré là, en parlant de la série canadienne contre Golden Knights, mais hier, c'était le premier match entre les Islanders de New York et le Lightning de Tampa Bay. Ça se passait à Tampa Bay. Et tout le monde pensait que cette série-là allait être la défensive des Islanders contre l'attaque du Lightning. Force est d'admettre que c'est pas le cas. Là. 31 tirs au but de chaque côté. Victoire des Islanders 2-1. 31 tirs de chaque côté. Je pense que ça s'est joué beaucoup au cercle de mise au jeu, ce match-là. Les Islanders ont remporté 60,9% des mises au jeu. C'est énorme, ça. Parce que quand tu remportes la mise au jeu, ça veut dire que tu prends possession de la rondelle, généralement. Ça veut dire un temps... Ben, j'ai pas le temps, les stats au temps de possession, là, mais c'est énorme, 60% aux mises au jeu. Ensuite de ça, mise en échec, ça s'est bien déroulé chaque côté, 40-41. Les revirements, les Islanders ont donné un seul revirement. On a commis un seul revirement, tandis que le Lightning en a eu 7. Donc, ça s'est joué là aussi. Et c'est ça que je voulais dire. Mais ça a été plus... C'est ceux qui pensaient à un match défensif, là, 31 tirs de chaque côté, c'est beaucoup. Là. C'est très offensif. Là. Ça n'a pas été si défensif que ça. Et le prochain match de cette série-là, ben, c'est mardi, justement, à 8h, mardi soir à 8h. Fait que ça va être intéressant de voir si les Islanders vont prendre l'avance 2-0 pour revenir à la maison. Il y a un bel engouement avec les Islanders présentement dans le coin de Long Island. Là. Fait que ça va être beau de voir ça. Est-ce que les Islanders, est-ce que ça pourrait être une finale Islanders-Canadiens? On oublie souvent que les Islanders, c'est une dynastie. Ça a été une dynastie dans le hockey. Là. Dans le temps de Mike Bossy, dans les années fin 70-80, ils ont remporté, si je ne me trompe pas, à un certain moment donné, 5 Coupes Stanley d'affilée. Donc, les Islanders, là, il y a de l'histoire dans cette équipe-là. Est-ce que ça pourrait être les Islanders contre le Canadien en finale de la Coupe Stanley? Il y aurait quelque chose de magique là-dedans, je pense, de revivre ce genre de série-là. Ce serait super intéressant. Ben, bref, on verra bien. On verra bien qu'est-ce qui va arriver. On va savoir ce soir si le Canadien est de taille à affronter les Golden Knights. Fait que... À suivre, comme dirait l'autre, à suivre après le match de ce soir. Donc, voilà, c'est tout pour ce matin. On se reparle demain matin. Il y a une belle journée. En Outaouais, ici, c'est plutôt gris. Annonce un peu de pluie. Mais bref, c'est lundi. Hein, on travaille pareil. Fait qu'il peut bien mouiller le lundi en autant qu'il fasse beau à la fin de semaine. Ça, c'est mon motto, comme on dit. All right, passez une belle journée, tout le monde. On se reparle demain. Ciao.